France Culture. Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
La violence est omniprésente à Gaza dans un paroxysme terrifiant, en Ukraine dans une horreur quotidienne, au Soudan, au Yémen, partout à travers le monde. En France également, la violence surgit parfois dans nos établissements scolaires, dans nos rues. La violence, je le disais, est omniprésente et pourtant les sciences sociales peinent à s'en saisir. Elle émerge difficilement comme objet de recherche, alors comment le comprendre, comment saisir ce hiatus entre la réalité de notre actualité, de notre monde contemporain et ce point mort de la sociologie et de l'anthropologie. Pour en parler, un invité ce soir, Didier Fassin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue, sociologue, médecin, professeur au Collège de France et à l'Institut for Advanced Studies de Princeton. Vous avez fait paraître Les leçons des ténèbres, ce que la violence dit au monde, un ouvrage qui a paru aux éditions La Découverte. Le livre est issu de votre cours au Collège de France intitulé Les formes de la violence. Merci d'être avec nous ce soir dans Questions du soir. Et je voulais commencer, Didier Fassin, par citer votre précédent ouvrage qui a paru également aux éditions de La Découverte et intitulé « Une étrange défaite ». Vous y écriviez « Le consentement à l'écrasement de Gaza a créé une immense béance dans l'ordre moral du monde ». Et un peu plus loin, cet acquiescement à la dévastation de Gaza et au massacre de sa population, à quoi il faut ajouter la persécution des habitants de Cisjordanie, laissera une trace indélébile dans la mémoire des sociétés qui en seront comptables. Fin de citation. Est-ce qu'il y a pour vous, aujourd'hui, depuis le 7 octobre 2023, un consentement généralisé à la violence ?
Il y a eu un consentement, en tout cas, très large, qui s'est manifesté de deux façons, de la part des gouvernements, de la plupart des gouvernements occidentaux, mais aussi d'autres gouvernements arabes, l'Inde, l'Argentine, etc., d'une partie des élites occidentales. Et ce consentement a pris deux formes, un consentement passif, laisser faire les choses, ne pas s'y opposer, et un consentement actif, apporter un soutien diplomatique, militaire, économique, à la réalisation, à la poursuite les représailles qui se sont mises en place à partir du 8 octobre 2023.
Vous parlez des élites occidentales. Est-ce que pour vous, il y a justement un autre hiatus entre ces élites et les opinions publiques qui, à votre avis, réagissent d'une manière extrêmement différente sur Gaza, vous trouvez ?
Pas nécessairement. D'abord, j'ai bien précisé une partie, mm-hmm. une partie des élites, parce que une autre partie qui pense différemment a eu beaucoup de mal à s'exprimer. C'était la raison, d'ailleurs, une des deux raisons de l'écriture pour moi du livre Une étrange défaite. La première, c'était de laisser une archive, une trace de réunir des documents sur les 6 premiers mois de ce qui s'était passé après les attaques meurtrières du Hamas et du djihad islamique en Israël, et donc d'essayer de comprendre ce qui s'était passé pendant ces 6 mois, à un moment où je voyais apparaître déjà une forme de révisionnisme, voire de négationnisme sur ce qui s'était produit pendant ces 6 mois. Et la deuxième raison, c'est que il y avait une police du langage et de la pensée qui s'était imposée, avec des choses qu'on pouvait dire et des choses qu'on ne pouvait pas dire, avec des sanctions pour ceux qui enfreignaient ces règles. Et donc, il m'a semblé qu'il était important qu'un certain nombre d'entre nous puissent rendre compte de ce qui était en train de se passer et permettre la réalisation d'un débat, d'une discussion, d'une réflexion sur ce qui, effectivement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, me semble représenter une défaite morale qui n'a pas d'équivalent en réalité depuis la Seconde Guerre mondiale.
Vous faites référence dans vos propos, peut-être, c'est en tout cas ce que je me dis en vous écoutant, Didier Fassin, à cet article que vous aviez fait paraître le 1er novembre 2023 dans la revue AOC, qui était intitulé « Le spectre d'un génocide à Gaza ». C'était 3 semaines après le 7 octobre 2023. Certains vous ont reproché de prononcer le mot trop tôt, d'avoir en tout cas osé dire ce mot beaucoup trop tôt. Est-ce que vous-même vous le regrettez ou bien vous expliquez aujourd'hui que les faits vous ont donné raison et a fortiori?
D'abord, il s'agissait d'une alerte. J'alertais sur le risque d'un génocide pour lequel on disposait déjà des déclarations des leaders politiques et des responsables militaires israéliens. La volonté d'exterminer la population, de détruire Gaza, de faire disparaître ce territoire de la surface de la Terre. Donc tout cela était... Et les actes suivaient. Donc il m'a semblé que dans le travail que je fais, je rappelle que j'ai une chaire qui s'intitule « Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines », eh bien...
Au Collège de France.
Et il m'a semblé que... Il était important d'alerter sur ce risque. Alors, on ne m'a pas reproché de le dire trop tôt, on m'a reproché de le dire. Mais comme vous l'indiquiez, depuis lors...
On vous a reproché de l'avoir dit très très peu de temps, tout de même, après justement les attaques terroristes du 7 octobre.
Dont j'avais parlé dans un article précédent qui était paru dans le Monde, où je déplorais évidemment les meurtres qui avaient été commis et où j'alertais là aussi sur le danger de représailles tel qu'il y en avait déjà eu en 2009, en 2014, toujours à Gaza. Donc La question est-il trop tôt d'invoquer le risque d'un génocide? Je pense qu'il n'est jamais trop tôt. Il n'est jamais trop tôt. D'ailleurs, je n'étais absolument pas le premier à le faire. En France, effectivement, les choses n'avaient pas été formulées de cette façon. Mais 800 universitaires du monde entier, spécialistes des génocides pour une partie d'entre eux, avaient signé une lettre alertant sur ce risque. 9 experts des Nations Unies en avaient fait autant, donc j'étais évidemment pas le premier. Je crois que malheureusement, comme vous le disiez tout à l'heure, à la fois l'alerte qui a été donnée quelques mois plus tard seulement par la Cour internationale de justice et depuis lors une quantité considérable d'experts, y compris israéliens, d'organisations internationales, d'agences des Nations Unies, qui ont...
De juristes également.
De juristes, absolument. De membres de gouvernements occidentaux qui se réfèrent à l'existence aujourd'hui d'un génocide.
C'est le cas de l'Espagne notamment qui emploie désormais le terme de génocide à travers la voix de son Premier ministre. Je voudrais vous faire entendre une voix, celle de Jean Baudrillard. Il s'exprimait dans le cadre d'une conférence à l'École normale supérieure, c'était en 2004.
La violence de l'image, et plus généralement celle de l'information ou du virtuel, c'est qu'elle fait disparaître le réel. Tout doit être vu, tout doit être visible. L'image est par excellence le lieu de cette visibilité. Tout le réel doit devenir image, mais la plupart du temps, c'est au prix de sa disparition. C'est d'ailleurs ce qui fait la séduction et la fascination de l'image, c'est que quelque chose en elle a disparu. Mais c'est ce qui en fait aussi l'ambiguïté. En particulier, si on considère l'image reportage, l'image message, l'image témoignage, en faisant apparaître la réalité, même la plus violente, à l'imagination, elle en fait disparaître la substance réelle.
Comment est-ce que vous analysez la réception des images qui affluent continuellement sur nos téléphones, nos télévisions, Didier Fassin, ces images qui montrent la violence, la mort, la barbarie, les bombardements à Gaza, comment est-ce que vous les analysez? Est-ce que c'est pour vous une source qui nous permet de nous sensibiliser ou bien on court le risque d'être habitué?
Alors je pense que pour être habitué, il faut voir les images. Or, ce qui m'a beaucoup frappé lors des, au moins la première, un peu plus de la première année, les 15 premiers mois la guerre à Gaza, c'est la quasi-absence d'images sur ce qui se déroulait à Gaza. On avait des chiffres qui étaient toujours accompagnés de remarques suspicieuses sur les données qui étaient avancées par le ministère de la Santé de Gaza. Et en fait, on avait très peu de voix et très peu d'images, très peu de voix sur les radios nationales, très peu d'images sur les télévisions nationales et une partie même de la presse, je pense aux États-Unis en particulier, au New York Times, ça a été identifié, il y avait des recommandations de ne pas évoquer, de ne pas parler de massacre, de ne évidemment pas d'utiliser des termes comme génocide ou nettoyage ethnique. Donc, il y a eu en fait une absence d'images sur ce qu'on appelle en anglais mainstream media, c'est-à-dire les principaux organes de presse. Mais bien entendu, comme vous le mentionniez, il y avait à côté de ça, sur les réseaux sociaux, sur certaines chaînes, par exemple Al Jazeera, dans des reportages qui étaient faits par des organes de presse en Israël, en Angleterre, ailleurs au Moyen-Orient, eh bien, on avait au contraire une profusion d'images. Mmh. Et ce qui fait qu'au fond, il y a eu... pour une grande partie du public, il y a eu très peu de visibilité de ce qui se passait. Alors avec la raison qui était invoquée, qui était qu'il n'y avait pas de journalistes, d'autorisation pour les journalistes d'aller librement, les journalistes étrangers à Gaza. En même temps, il y avait, on le sait, des centaines de journalistes qui étaient sur le terrain.
Palestiniens notamment.
Palestiniens, dont près de 200 ont trouvé la mort en étant visés en tant que tels, précisément parce qu'ils montraient quelque chose. Donc, je crois que le paysage médiatique et la visibilité de la violence et donc de la souffrance des Palestiniennes et des Palestiniens a été très inégalement distribué.
Et puis on sait aussi que beaucoup de vidéos circulent sur les réseaux sociaux grâce à l'engagement même des citoyens palestiniens qui filment l'horreur qui fragmente leur quotidien. Didier Fassin, on parle des images, je voudrais aussi qu'on parle des statistiques. 63 000 morts à Gaza depuis les jours qui ont suivi le 7 octobre 2023. Quel est le danger aussi de ces statistiques? Vous qui travaillez sur la valeur des vies, est-ce qu'elles risquent de déshumaniser, d'effacer justement les existences réelles, profondes qu'il y a derrière?
Alors vous avez raison. D'abord, on sait que 63 000 morts, c'est un chiffre qui est une sous-estimation. On a de nombreuses études qui ont été faites dans d'autres pays, lors de guerres en Irak, en Afghanistan, mais ailleurs dans le monde, où on découvre par des études qui sont faites a posteriori, que par rapport aux chiffres de personnes qui ont été tuées par la guerre, par les bombes, par les tirs, le nombre de ce qu'on appelle les morts indirectes peut être de 4 fois supérieur aux morts directes. C'est très bien documenté par des travaux d'épidémiologie et de démographie notamment. Donc 63 000, il faut savoir que c'est malheureusement un chiffre qui est très sous-estimé. On commence déjà à avoir des enquêtes qui sont faites, qui sont encore très partielles et qui, de toute façon, ne mesureront pas immédiatement les effets de la malnutrition, des infections. Ce sont surtout les très jeunes enfants qui sont les plus fragilisés. Mais comme vous l'indiquez, ne donner que des chiffres, ça comporte un risque, même quand ces chiffres sont particulièrement tragiques, ça comporte un risque de donner une image abstraite, sans chair. De ce qui se passe. Et d'ailleurs, il y a une association qui est un programme qui existe en Palestine et qui s'appelle We Are Not Numbers. Nous ne sommes pas des chiffres. Et justement, qui essaie de faire parler des enfants, de leur faire raconter leur vie. Et je crois que il y a une phrase d'un poète palestinien qui dit je crois qu'il y a une vie après la mort, mais y avait-il une vie avant la mort? Et cette question-là, je crois, est véritablement ce qui est effacé par les statistiques de mortalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie que de vivre sur un territoire où ses ancêtres étaient où on n'a plus de liberté de se déplacer, où on voit ses terres progressivement réduite, où on peut être agressé sous l'œil de l'armée sans qu'il y ait d'intervention, où on peut se faire arrêter sans charge ni procès. Pensons qu'aujourd'hui, une enquête israélienne montrait que trois quarts des personnes qui sont détenues dans les prisons israéliennes depuis le 8 octobre 2023 sont des personnes qui n'appartiennent pas aux combattants. Donc ce sont des otages. Or, on ne parle jamais des otages palestiniens.
Israël parle de prisonniers politiques, notamment de prisonniers administratifs aussi.
Oui, mais c'est bien sûr c'est une formule, la détention administrative, c'est une formule qui existe dans un certain nombre de pays, justement quand on n'a rien à reprocher aux personnes. Et d'ailleurs il existe en Israël une décision de la Cour suprême qui autorise et justifie les prises d'otages pour des négociations dont on a bien vu que c'était ce qui s'était déroulé dans la première phase du cessez-le-feu.
Je le disais, Didier Fassin, dans le propos liminaire de notre discussion, la violence est partout dans l'actualité, dans le quotidien aussi des Gazaouis, des Ukrainiens, de bien d'autres peuples. Et l'on comprend, en lisant votre dernier ouvrage intitulé « Leçons au pluriel de ténèbres, ce que la violence dit au monde » qui paraît aux éditions de La Découverte, que cet objet-là, la violence, est à peu près absent des recherches en sociologie, en anthropologie. Comment comprendre ce mystère? Comment comprendre que les sciences sociales se soient si peu emparées de la violence?
Alors d'abord, vous avez raison de rappeler que le livre « Leçons de ténèbres » n'est pas un livre sur Gaza, c'est pas un livre sur la Palestine, c'est un livre sur la violence.
C'est presque un livre d'épistémologie, j'allais dire.
D'épistémologie, mais aussi du travail de qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on fait avec la violence. Et effectivement, en partant du constat qu'elle est omniprésente dans nos sociétés depuis des situations tragiques comme celles que nous évoquions, et y compris dans d'autres pays, bien sûr, que la Palestine. Vous mentionniez le Soudan, l'Ukraine. On pourrait parler des Rohingyas, on pourrait parler des Ouïghours, on pourrait multiplier la RDC, bien sûr, multiplier les exemples.
La République démocratique du Congo.
Et donc il y a cette violence-là, mais il y a aussi une violence qui est apparue. Elle existait déjà, mais elle nous était relativement invisibilisée, que ce soit la violence sexuelle dans les églises, les violences domestiques. Tout ça existait, bien sûr, mais on en a une présence de plus en plus forte. Or, effectivement, le paradoxe sur lequel j'ai essayé de réfléchir, c'est comment se fait-il que, en particulier la sociologie et l'anthropologie, mais dans une certaine mesure l'histoire, ça n'est pas le cas pour la théorie politique, la philosophie politique, pendant un siècle, de leur premier siècle d'existence, c'est-à-dire jusque dans les années 1980-1990, n'est pas du tout abordé. La question de la violence, au point que dans des dictionnaires, des encyclopédies en 15-20 volumes, eh bien, il n'y a même pas une entrée au mot violence. Et je crois qu'il y a à cela plusieurs raisons. La première, c'est que la sociologie et l'anthropologie se sont construites sur qu'est-ce qui fait l'unité d'une société, d'une culture. Et donc, le désordre que représente la violence n'avait pas sa place dans cette, ou alors ne l'avait que comme quelque chose qu'il s'agissait de corriger, et que la société, sur un mode fonctionnaliste ou culturaliste, parvenait à maîtriser. Il y a donc cette première raison. Il y a une deuxième raison que...
Sur ce point, pardonnez-moi, mais les écarts à la norme, ils sont nombreux, et pourtant la sociologie s'en est saisie de manière diverse. Comment comprendre là aussi ce paradoxe que vous mettez en lumière ?
Alors effectivement, norme et déviance, c'est le cœur de la sociologie. Mais justement, la déviance comme écart à la norme, mais non pas la violence dans ce qu'elle peut être comme expérience, ce qu'elle peut être comme réalité à la fois vue, bien sûr, du point de vue des victimes, mais aussi du point de vue de ceux qui commettent ces violences, voire de la société tout entière, la manière dont elle la gère. Il y a aussi eu cette idée qui est très répandue et dont on voit bien qu'elle comporte des éléments de vérité qui sont de nature. L'idée de Max Weber selon laquelle l'État aurait le monopole de la violence légitime, ce qui veut dire que les autres violences ne le sont pas et donc vont être réprimées légitimement par l'État. Et puis la thèse de Norbert Elias qui est que de la civilisation des mœurs, qui est que nos sociétés depuis le Moyen Âge, sociétés occidentales, ont appris à gérer les excès, les dépassements, les débordements, que ce soit dans le domaine de la nourriture, de la sexualité et donc de l'agressivité. Et ce qui fait que tout cela a joué. Et un autre élément qui m'a semblé très, très intéressant et qui est développé par un philosophe jamaïcain qui s'appelle Charles Mills, qui est de dire, oui mais qui étaient les sociologues, qui étaient les anthropologues ? Eh bien, c'était des hommes blancs, de pays occidentaux, et il dit qu'auraient été ces disciplines s'il s'était agi aussi de femmes, de minorités, de colonisés. Et on voit bien d'ailleurs que la violence a pu devenir plus visible, plus compréhensible aussi, à partir du moment où on a entendu ces voix s'exprimer dans nos sociétés.
Un autre élément important, Didier Fassin, c'est peut-être que la violence est extrêmement compliquée à définir. Elle embrasse un nombre de situations extrêmement hétéroclites. La violence physique, les bombardements, la violence morale, la violence professionnelle, les agressions sexuelles, la violence symbolique même dont parlait Pierre Bourdieu. Alors c'est quoi la violence dans le fond ?
Alors effectivement, c'est une des grandes difficultés qu'ont pu avoir les sociologues et les anthropologues lorsqu'ils ont commencé à s'intéresser à la violence et dire, mais au fond, quelle est-elle ? Alors on l'a d'abord définie dans des relations entre les êtres humains et sur le mode physique. Et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait être violent à l'égard des animaux, qu'on pouvait même peut-être être violent à l'égard de la nature, voire de la planète. Et puis la violence n'était pas simplement physique, mais elle pouvait être morale, elle pouvait être une violence qu'on appelle structurelle, celle des inégalités. Et en fait, les inégalités font plus de morts que la violence physique. Et puis la violence symbolique, comme vous le rappeliez, c'est-à-dire dont parlait Pierre Bourdieu, à savoir le fait que les dominés, comme il le dit, se voit imposer une vision, une représentation des choses par les dominants qui les empêche de voir leur domination. C'est ce qu'il appelle la violence symbolique. Donc effectivement, il y a une somme très très large et je crois qu'il s'agit pas et d'ailleurs je ne l'ai pas fait de donner une définition. J'en ai montré un certain nombre, mais je n'ai pas donné la mienne. En revanche, il me semble qu'il y a quand même quelques points qu'on peut retrouver, à savoir la violence, elle produit de la souffrance, et la violence, elle s'exerce sur des corps. Et alors, pas forcément physiquement, ça peut être psychologiquement, ça peut être symboliquement, ça peut être structurellement. Il me semble que ces deux éléments-là, la souffrance et le corps en font partie. Après, il y a un autre élément que j'ai un peu moins développé, mais qui est tout, également important d'un point de vue presque psychique, c'est la question de la cruauté et de la jouissance qu'il y a, dont Nietzsche parlait notamment, qu'il y a dans le fait d'exercer des violences.
En quelques mots, est-ce que, Didier Fassin, la sociologie, l'anthropologie peuvent traiter des faits divers ? Dans la stricte actualité française, c'est souvent par ce truchement-là que la violence est abordée, la violence dans les établissements scolaires, la violence dans certaines rues, qui est réelle, mais est-ce que la sociologie peut dire quelque chose du fait réel, ou bien elle doit toujours tenter justement de s'en écarter, de s'en éloigner méthodologiquement? Comment faire de ce point de vue-là?
Je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas aborder la question de la violence dans mes travaux, aussi bien sur la police que sur la prison. J'ai essayé de le faire en étant au plus proche de l'observation, en essayant de toujours relier ce que sont des pratiques individuelles, non pas à des qualités ou des caractéristiques, à des psychologies des individus, mais de les relier aussi à des contextes dans lesquels on peut rendre possible cette violence. Donc je crois qu'il revient effectivement, et d'ailleurs beaucoup le font, il revient aux sociologues et aux anthropologues de comprendre cette violence, de l'étudier, de l'analyser au plus près de ce qu'elle est.
Merci beaucoup Didier Fassin de cet échange, de cette discussion. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui paraît aux éditions La Découverte, leçon au pluriel de ténèbres, ce que la violence dit du monde. Je rappelle que vous êtes professeur au Collège de France. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Question du soir.
Merci.